Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle, bien heureuse de vous revoir, je vous vois pas, mais d'être avec vous, d'être avec vous ce matin, vraiment. Bienvenue à l'émission d'un jour à la fois. Cette émission est dédiée au mouvement des Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, et ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant notre émission. J'ai le plaisir ce matin de recevoir une membre que je connais pas énormément, mais suffisamment pour l'aimer. Et puis, donc, on s'est croisés dans un meeting d'attache. On s'est croisés dans un intensif. Donc, je l'ai vu comme quand même pendant quelques années, là. Puis, j'aime beaucoup son énergie, son sourire, sa lumière. Il y a beaucoup de choses que j'aime en elle, puis j'ai bien hâte d'entendre son partage avec vous ce matin, puis je sais qu'on va passer un beau moment ensemble, alors sans plus tarder, je lui passe la parole, et c'est Louise.
Bonjour, je m'appelle Louise, je suis une alcoolique. Je me sens très privilégiée aujourd'hui d'être invitée dans cette émission par Isabelle. Je te remercie infiniment. Pour moi, c'est un honneur et un défi à la fois. Alors, on va commencer. Je suis la quatrième d'une fratrie de 5. Maman était éperdument amoureuse de son mari. Je dis son mari parce que vous comprendrez tantôt que pour moi, ce n'est qu'un géniteur. Maman, quand on se remet à son époque quand même, elle avait 21 ans à sa première grossesse et sa dernière grossesse, elle a eu 6 grossesses jusqu'à l'âge de 29 ans. Mmh. Elle a consacré sa vie avant que le père quitte la maison, j'y reviendrai, et elle a consacré sa vie aux enfants, à ses enfants, et c'était ses enfants à elle. Je peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, non. J'ai plutôt vécu l'abandon d'un père. Mon père biologique est un homme alcoolique, qui faisait aussi partie des AA. Bref, on va commencer par le début. Cet homme dont ma mère était éperdument amoureuse, a plusieurs conquêtes dans sa vie. C'est un homme coquet, c'est un homme bien mis, c'est un homme qui a la parole très facile, très enjôleur. Donc, il a plusieurs femmes dans sa vie et ça vient aux oreilles de maman, c'est sûr. Et cet homme décide un jour de quitter ma mère avec ses 4 enfants parce qu'elle est enceinte du 5e. Et surprise, sa maîtresse aussi est enceinte en même temps que maman. Maman vit ça très, très difficilement. Cet homme quitte la maison et on se voit très, très, très rarement parce que ma mère, elle, pour elle, tout ce qui lui reste, c'est ses enfants. Et je dis 16 enfants avec un S majuscule. C'est comme si ce n'était que les siens. Et elle refuse que cet homme voit ses propres enfants. Pour elle, c'est une déchirure épouvantable. Maintenant, je le comprends, là. Mais c'est comme si on avait été pris en otage, d'un sens. Cet homme qui voulait nous voir et que maman refusait totalement qu'on le voie. Mais moi, tout petite, je commence à avoir peur de cet homme, mais en fait, c'est parce que je vois la tristesse de ma mère effondrée par cet homme qu'elle aime tellement, qu'elle a quitté, et qu'elle garde tous ses poussins près d'elle sans vouloir les partager. Moi, j'ai peur de cet homme-là. Mais je sais pas pourquoi j'ai peur de cet homme-là. Cet homme-là est alcoolique, mais je suis trop petite pour comprendre les torts qu'il a fait à ma mère. Et j'ai à peine un an et demi à l'époque. Là. Je me souviens pas, c'est des choses qu'on m'a racontées. Donc, assez vite, j'ai vécu un rejet, un très grand rejet. Et j'ai comme pris sur mes épaules cette tristesse, ce désespoir que ma mère vivait. Et ça, je l'ai compris plus tard, que j'ai voulu être son sauveur à ma mère. J'expliquerai ça un peu plus tard. Je n'en veux pas à cet homme, et je n'ai jamais voulu le revoir, cet homme, parce que pour moi, ce n'était qu'un géniteur. Et c'était aussi un homme malade, autant que moi. Et plus tard, je me suis rendu compte, en fait plus tard non, juste hier. Hier, j'ai dit, avant mon partage de ce matin, tiens, je vais écrire mon histoire. Je l'ai jamais écrite. Je me suis mis à écrire mon histoire hier, chez nous. Et j'ai constaté que finalement, j'ai fait exactement ce que mon père a fait à ma mère. Fou, hein? Pourtant, j'ai 4 ans d'abstinence et c'est hier que j'ai pris connaissance de ça. Comment dire, la peine, là. C'est fou. Alors, donc, il y a une bataille constante entre ma mère et cet homme pour ne pas qu'il voie les enfants. J'ai su que des fois, il se cachait devant la cour d'école pour nous voir. Mais son, c'est pas. Moi, dans ma tête, le père est quitté et je ne l'ai plus jamais revu. La dernière fois que je l'ai revu, j'avais peut-être 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60, je ne l'ai jamais revu. Et cet homme est décédé. Bref, ma mère a élevé seule ses 5 enfants. Cet homme n'a pas vraiment subvenu aux besoins des enfants. Bref, ce qu'il donnait comme chèque ont été non encaissés pour manque de fonds. Pourquoi je sais ça? Parce que ma mère travaillait dans l'institution financière. Donc, c'est elle qui, les chèques, elle les voyait rebondir. Elle les avait encore même dans une boîte en carton. Mais ma mère, pour moi, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui a su se relever les manches, qui ne travaillait pas. Quand monsieur est parti, ma mère a trouvé un travail à temps plein. Le soir, elle étudiait en comptabilité et la nuit, elle cousait des cravates. À l'époque, c'était quelques sous par cravate pour pouvoir faire vivre ses 5 enfants, les faire manger et tout ça. Oui. Fait que pour moi, cette femme-là, c'est une femme extraordinaire. Donc, tout ça pour dire que plus tard, ma mère, j'ai peut-être 5 ans. À peu près 5 ans, elle a rencontré un homme qui sera mon père adoptif, mon vrai père. Parce que pour moi, un père, c'est pas celui, le géniteur. Pour moi, un papa, c'est celui qui est présent quoi qu'arrive, que tu sois en santé, pas en santé, heureuse, triste. Celui qui est là quand t'en as besoin, c'est ton papa. Alors, cet homme-là est arrivé dans notre vie, un homme extraordinaire. J'ai souvent dit, t'aurais dû faire un prêtre, papa. Il a le cœur sur la main. C'est l'homme qui nous faisait les câlins, puis c'est un homme sans aucune arrière-pensée, quoique les gens ont quand je parle de ça, ils disent, oh, tout de suite, il y a une anguille sous roche. Non, pas du tout. Du tout, du tout. Il a, écoutez, faut le faire aujourd'hui, rencontrer une femme avec 5 enfants qui vit seule. Lui, il est célibataire. Il est à peu près, il est dans le début de la trentaine. Aïe, aïe. C'est quelque chose. Aujourd'hui, t'as de la misère à faire une famille reconstituée avec un seul enfant. Bravo. Papa est toujours en vie. Maman est décédée aujourd'hui. Mon père est toujours en vie. Et maintenant, il est né en 34, donc il a 88 ans. 88 ans, papa, il va encore dans la maison. Il est encore dans notre maison familiale. Il est encore en santé. Donc, cet homme est arrivé dans notre vie pour faire un... C'est que ça a fait comme un quasi-équilibre, je dirais, si on peut dire, parce qu'on est quand même une famille de 5. Et là-dessus, on est tous, sans aucune exception, alcooliques. Et certains sont dépendants d'autres substances et dépendants de toutes sortes. Donc, voici ma famille.
Merci, Louise. Je suis déjà bien, bien touchée hein, par le début de ton enfance, ouais, la description de ta famille. Puis en effet, je suis bien d'accord pour dire que ta mère était extraordinaire. Là. Ça demande beaucoup d'énergie puis de courage de réussir à prendre soin de 5 enfants de cette manière-là. Puis je suis très touchée aussi par l'homme qui est rentré dans votre vie. Aïe, aïe, hein. Ça aussi, ça
c'est quelque chose.
Ouais, c'est quelque chose. En tout cas, c'est quand même triste pour celui que t'appelles ton géniteur, là. Ça laisse des traces, hein, des blessures,
oui,
malgré tout.
On verra tantôt, oui.
Ah, fait que merci pour cette entrée en matière. On va terminer le premier segment de cette manière. On va aller à la pause. On vous retrouve tout de suite. Merci d'être là, les auditeurs. On vous rejoint dans quelques minutes.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois avec Isabelle au micro. Alors là, comme je fais toujours au deuxième segment, donc voici un court texte provenant de la littérature AA et j'ai choisi les meilleurs articles de Bill. Réflexion sur la foi, la peur, l'honnêteté, l'humilité et l'amour. Et j'ai choisi l'humilité. Alors c'est la page 42. Aujourd'hui, juin 1961. L'humilité absolue n'est pas possible pour les humains. Tout au plus, pouvons-nous percevoir le sens et la splendeur d'un idéal si parfait. Comme on peut le lire dans le livre « Les alcooliques anonymes », nous ne sommes pas des saints. Nous parlons de croissance spirituelle plutôt que de perfection spirituelle. Dieu seul peut prétendre à l'absolu. Les humains ne peuvent que vivre et grandir dans le domaine du relatif. Nous recherchons l'humilité aujourd'hui. La question est donc de savoir ce que l'on entend au juste par l'humilité aujourd'hui. Et comment savons-nous si nous l'avons trouvée? Nous savons tous qu'une culpabilité et une révolte excessive mènent à la pauvreté spirituelle. Mais il nous a fallu beaucoup de temps pour nous rendre compte que l'orgueil spirituel pouvait nous appauvrir encore davantage. Quand nous avons constaté, nous les premiers membres, à quel point nous pouvions être orgueilleux sur le plan spirituel, nous avons inventé cette phrase « N'essayez pas d'être parfait d'ici à jeudi ». Cette vieille mise en garde peut sembler une autre excuse commode pour ne pas faire de son mieux. En regardant de près, on voit que c'est tout le contraire. C'est la façon des AA de mettre les membres en garde contre l'aveuglement de l'orgueil et l'illusion d'une perfection qui n'est pas la nôtre. Ouais, ça fait réfléchir tout ça. Alors oui, alors on revient à notre invitée aujourd'hui qui est Louise. Ça je l'aime beaucoup. Puis vous allez comprendre là dans son premier sa première partie de partage, elle parlait beaucoup de sa famille, son père absent, géniteur, qui est parti, elle était très jeune, sa mère qui est ultra forte et courageuse, qui a élevé ses 5 enfants, mais surtout aussi a bien tout fait pour que le géniteur dont on parle ne voit pas ses enfants. Et elle vient d'une fratrie de 5 et elle a terminé sa première section en nous disant qu'ils sont 5 alcooliques. Donc, elle a aussi un papa, puisque sa mère a rencontré un homme formidable, de ce que je peux comprendre, là, qui a vraiment été un père, et puis qui est toujours vivant, 88 ans, et toujours présent dans la maison familiale. Alors ça, je pense que c'est quand même quelque chose de stable, mais malgré ça, l'instabilité des alcooliques, on sait c'est quoi. Donc, 5 enfants alcooliques, qu'est-ce que ça fait dans dans son univers à Louise? Alors, nous allons continuer à écouter son histoire avec un grand intérêt. Alors, Louise, vas-y, c'est à toi.
Merci, Isabelle. Louise, alcoolique. Effectivement, on est 5 enfants. On est 5 différents et tous dépendants. Ma mère n'acceptait pas de pleurs à la maison, autant d'apitoiement. On n'avait pas le droit de s'apitoyer chez nous, on n'avait pas le droit de pleurer, on n'avait pas le droit, mais les câlins, on n'a pas connu vraiment ça. On était comme tous en compétition l'un l'autre, probablement pour être celui qui va être le plus aimé par maman. Et quand je me souviendrai tout le temps, quand on pleurait, quand je pleurais, ben, maman me disait, si tu pleures, pleure tout bas parce que moi, je veux rien entendre. En fait, ce qu'elle me disait, maman, c'est que ça la faisait énormément souffrir de nous entendre pleurer. Aujourd'hui, j'ai compris ça. À l'époque, je la trouvais tellement dure. Et quand mon géniteur est parti, maman est devenue une femme froide, une femme autoritaire, une femme, une femme froide. Et plus tard, quand j'ai fait une dépression majeure, mon psychologue m'a fait comprendre une chose. J'étais toujours en conflit avec ma mère, parce que moi, ce que j'attendais de ma mère, j'attendais des câlins, j'attendais une complicité, des discussions, mais il m'a fait comprendre que mon père, Pierre, qui est le deuxième mari de ma mère, que j'appelle mon vrai papa, en fait, lui, il jouait le rôle de maman. Et ma mère jouait le rôle de mon père. Donc, ma mère était le pourvoyeur. Ma mère a toujours été celle qui apportait le plus d'argent dans la maison et aussi qui faisait régner l'ordre, qui devait se tenir droite. Et en fait, elle avait le rôle du papa, sans que je le sache. J'ai su ça à 40 ans. Donc, ça a mis beaucoup de baume sur tout ce que j'en voulais à ma mère de pas m'avoir dit qu'elle m'aimait, des câlins, des paroles, ça n'existait pas chez nous. Mais quand j'ai compris que ça faisait le rôle de mère et que mon père était ma mère, l'inverse, ah là, ça a fait du bien. Là, j'ai compris, je n'ai plus de problème là, je n'ai plus. Celui qui me faisait les câlins, qui nous consolait, c'était papa. Puis maman, ben, elle a pas eu le choix. Quand le bonhomme est parti, excusez l'expression, est parti, elle a dû, avec 5 enfants, faire régner l'ordre. Bon, fait que ce boulot, c'est réglé, mais c'est réglé à 40 ans. Avant ça, c'est passé bien des choses. Avant ça, donc, quand j'ai connu mon premier mari, j'avais 16 ans. Mais moi, j'avais hâte de sortir de chez nous parce que peut-être j'avais hâte de faire ma propre vie. Donc, je connais, il s'appelle Michel. Je connais Michel à l'âge de 16 ans. À 21 ans, on va se marier. Et c'est pas vrai. À 26 ans, on va se marier. Je vais avoir un fils tant attendu. Et j'ai pas encore beaucoup de problèmes d'alcool. Mon problème d'alcool va arriver plus tard, moi, vers 29 ans. En fait, je dis, j'en avais pas. Ben oui, j'en avais, mais je savais pas que j'étais alcoolique. Parce que chez nous, il n'y en avait aucune boisson nulle part. Ça n'existait pas. On voyait pas de bière, on voyait pas de bouteille de phare, rien. C'était inexistant chez nous. C'était une loi non écrite. Et quand j'ai connu Michel, et à l'âge de 16 ans, le premier Noël, je suis arrivée chez eux. Puis là, il y a plein de bouteilles de phare sur la table. Je me suis dit, aïe, aïe, que c'est ça? J'ai comme peur. Puis je comprends pas ma réaction à l'intérieur, mais je suis pas bien, j'ai un malaise, je comprends pas. Puis là, c'était comme bar open, c'était comme on se sert, puis on me demande, Louise, veux-tu un verre? Ben non. C'était évident, ben non, je peux pas prendre ça. Mais... En tout cas, fait que là, je trouve ça bizarre, mais je vois bien que c'est du monde bien correct, bien normal. Ça continue comme ça. Et là, avec Michel, bon, là, on a plus de rencontres avec la famille, les parties, ce que je connaissais pas ce côté chez nous. Donc, sa mère devient quasiment ma maman et tout ça. Fait que pendant les parties familiaux, je bois normalement. Faut dire que Michel, de temps en temps, il dit, oh, je pense que là, tu n'as pris assez. Fait que, OK. C'était pas la même chose dans les parties de bureau, par exemple. Il pleut. Mais je sais pas encore que je suis alcoolique, mais dans les parties de bureau, j'ai 21 ans, 22 ans, je bois. Je bois jusqu'à me rendre insouciante et non coupable de flirter avec le patron ou un collègue. Et ça finit à peu près tout le temps par une aventure. Tout le temps. J'arrive chez nous comme si de rien n'était. J'ai pas de problème d'alcool, j'ai juste un party de bureau. Puis c'est ça, la même chose entre filles. Mais dans la famille, personne ne sait que je bois jusqu'à en perdre la tête parce que faut que je me tienne droite dans la famille. Parfois, je me suis trouvée hypocrite. Il y avait Michel qui me mettait ses breaks aussi, heureusement. Ce qui va tout changer la journée où je vais décider de le quitter. Effectivement, à l'âge de 29 ans, je décide que moi, là, Louise, toi, là, tu vas vivre tes 18 ans. Tu n'as jamais connu d'autre chose que ton chum. Ouais. Sans compter tout ce que j'ai eu pendant des parties. Et... Alors, je décide de quitter Michel et par le fait même de blesser mon fils dans le sens où je brise cette coquille familiale. J'ai la garde de mon fils. Et là, tout chavire. Là, je me permets la totale. Là, j'ai vécu... Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai voulu comme venger ma mère, si on veut. Pas tout à fait ça, c'est que dans ma tête, je me disais, là, les gars, là, c'est moi qui va vous avoir et moi, je ne vous rappellerai pas le lendemain, Evelyn. Mais dans ma tête d'alcoolique, les gars, ils en seraient juste plus heureux parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Jusqu'au jour où il y en a un qui, lui, est tombé en amour avec moi. Il m'a appelé. Et tu peux pas me faire ça, pas me rappeler, puis... « Hey, t'es qui, toi? » Non, je te rappelle pas. On a eu du fun. Et oui, ça se peut. Ça se peut des garçons qui ont le cœur à bonne place.
Quelle belle façon de finir ça. On en parlait tout à l'heure dans la pause, justement, des rapports hommes-femmes. Puis, ouais, c'est pas toujours facile de comprendre comment entrer en relation, puis comment conserver une relation, puis comment on peut gérer toutes ces émotions-là, puis notre perception des choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis je pense que Louise, ça vient de nous mettre aussi encore au parfum de ça. Alors, merci, Louise. T'es tellement authentique, puis tellement honnête aussi dans ton partage, puis j'apprécie. Puis je sais que les membres vont probablement, ou bien ceux qui ne le sont pas encore, là, mais ceux qui sont à notre écoute, qui vont comprendre des choses et avec beaucoup d'intérêt dans ce que tu nous racontes. Alors, merci encore d'être là avec nous. Puis on va aller à la pause, surtout rester là. Nous revenons tout de suite.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous revoici à l'émission Un jour à la fois. Donc, merci d'être là. Restez avec nous. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, _émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez en plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast. Ah oui, il y a toutes les émissions 2020, 2021, 2022, si vous avez du choix en masse, ainsi que toutes les archives de partage radio sont là. Les podcasts peuvent s'écouter via toutes les plateformes, donc vous choisissez. Et si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, ce que j'ai toujours besoin de monde pour venir raconter leur histoire, c'est clair, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Là, je vous avais dit lors des émissions antérieures qu'on enregistrait au studio de CKVL et qu'on pouvait enregistrer par téléphone, mais on a réalisé que ça ne nous faisait pas un bon son avec le téléphone, puis on a laissé tomber cette idée. Puis comme aussi il y a beaucoup d'allègements là, pour les règles sanitaires, on est revenu donc au bureau des services régionaux à Montréal sur la rue Rachel. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est justement, on est en personne avec Louise. Alors, c'est ce que nous vous offrons maintenant. On retourne à cette façon de faire qui va faire en sorte que, on espère, un son de meilleure qualité pour vos oreilles. Alors, je vais être bien heureuse de vous accueillir ici avec mon équipe. Alors, voilà, ben c'est tout pour cette introduction parce qu'on va retrouver Louise. Louise qui nous parle là de choses plus personnelles, de vraiment elle dans ses relations, elle comment fonctionne aussi son début d'alcoolisme, comment ça se passe elle dans les parties de bureau, et puis dans la fin, avant qu'on quitte pour la pause, elle nous racontait qu'elle a donc quitté une relation avec qui un homme avec qui elle était mariée là, Michel, puis donc aussi elle est en train de nous dire qu'elle a, ben ça l'a fait mal à son garçon aussi cette rupture-là, elle a 29 ans, puis donc on va voir qu'est-ce qui se passe après, là. Elle a dit aussi que ses relations, elle a décidé aussi que elle allait dire au gars, ça va être moi qui va vous appeler quand on me tente, il y en a un qui l'a rappelé, mais en tout cas on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors voici Louise encore avec nous.
Bonjour, me revoilà. Donc, tout ça pour dire que la saga de Louise s'est passée à peu près pendant un an. J'ai vécu ce que j'appelais mes 18 ans, beaucoup de boissons, et à un moment donné, j'ai dit « là, ça suffit ». Si une alcoolique peut être cartésienne, alors là, j'étais cartésienne et j'ai décidé que là, je devais avoir quelqu'un de stable dans ma vie. Et avez-vous entendu? J'ai décidé. Ben oui. Alors, comme une bonne alcoolique, j'ai dit, je vais aller à la chasse. Et je suis allée à la chasse dans un club, ben oui, mais je suis pas une fille à club, pas vraiment. Peu importe, faire une histoire courte, je rencontre quelqu'un que j'amène à la maison, puis moi, je le sauve, ce personnage-là. Bon, la première fois que je le vois, ben oui. Non, j'ai pas couché, excusez. Non, il n'y a pas eu de relation, je m'excuse. Plus tard, cet homme-là, je le marie, et on a un enfant ensemble. J'ai une fille avec cet homme, qui est dépendant aux substances, disons, aux potes, tout ce qui peut se fumer. Et il est aussi gambler. Bien sûr que il m'a pas écrit cette description-là dans sa petite carte avec ses fleurs qu'il m'avait remises au début. Là. Il avait oublié d'écrire ça, lui, qui aimait ça le pot, puis à jouer. Bien sûr, j'ai su ça quelques années. Notre relation a pu s'établir, comment dirais-je, on avait des racines quand j'ai su que... qui avait ces problèmes-là. Moi, je pensais qu'il, de toute façon, travaillait de soir, de nuit, etc., en camionneur, et je pensais qu'il avait une maîtresse, parce qu'il n'arrivait jamais, supposons qu'il devait arriver à 7 heures, il arrivait à 11 heures, midi, peu importe. Et moi, pendant tout ce temps-là, depuis que j'ai quitté Michel, ben je prenais de la boisson quand les enfants étaient couchés. Je m'assurais que les enfants manquaient de rien. Et moi, en perfectionniste que je suis, il n'était pas question que chez nous, les enfants mangent des croquettes congelées ou peu importe ce qui est déjà pris cuit, préfait. Non. Moi, je fais ma confiture, je fais mon croton, je fais mes pâtés. Moi, je fais tout. Et sûrement, il faut que la maison soit très propre. Alors, je lave mes planchers à tous les jours. Bravo, ma grande. Et quand tout le monde est couché, quand mes enfants ont mangé, j'ai travaillé naturellement toute la journée, j'ai nourri les enfants, je les ai couchés, et bien là, c'est mon temps à moi. Je sors ma bouteille. Et je m'installe. En dernier, je prenais plus de verre, là. Je prenais pratiquement en bouteille. Jusqu'à ce que je m'endorme, en fait, jusqu'à ce que j'aie un blackout, c'est sûr, sur mon fauteuil dans le sous-sol. J'avais un blackout. Puis je pensais que personne ne savait. Le lendemain, je me levais et malheureusement, je n'ai pas connu ça, moi, des maux de tête, des maux de cœur, des... Il en rentrait beaucoup dans ce petit corps. La journée recommençait. Mon conjoint de l'époque, lui, travaillait de soir, donc il voyait pas si je buvais, puis combien j'en buvais. Puis de toute façon, s'il avait fallu qu'il me dise que je buvais trop, j'aurais dit, ben là, quand t'arrêteras de fumer, toi, puis d'aller jouer dans la machine, ben j'arrêterai de boire. Mais c'est bien sûr qu'à un moment donné, vers l'âge de 40 ans, j'étais plus capable. J'ai fait une dépression majeure. J'ai arrêté de boire à ce moment-là en décembre. Et la dépression majeure m'a frappée en plein front. J'ai arrêté de travailler pendant 10 mois. J'ai été un an et demi abstinente. Et mon psychologue me disait, tu devrais aller voir les A. T'es-tu malade? Moi, aller voir les A. J'ai assez de mes problèmes moi-même sans aller entendre ceux des autres. Et mon Dieu. Puis je comprenais pas que mon psy me dise « Allez voir des A, c'est quoi ça? Je te paye, toi, mon psy, pour m'aider. J'aime mieux faire ça tout seul avec toi. » Alors, après un an et demi, il y a un beach party chez une de mes amies, puis tout le monde a bien du fun. Puis moi, j'ai ma petite bière. J'avais pris une petite bière sans alcool. Vous imaginez bien que cette soirée-là n'a pas fini avec une petite bière sans alcool. Non, tout y a passé. Tout. La 0.5, après ça, la bière. Après ça, de la boisson, puis bien d'autres choses qu'on se met ailleurs que dans la bouche. Donc, et là, ça a repris et ma rechute a duré 16 ans.
Oui.
16 ans. Là, je vous épargne tout ce que j'ai pu vivre parce que ça peut entre ça, il y a eu la mort de Michel, mon conjoint, le père de mon fils, qui est mort subitement à l'âge de 40 ans. De 54 ans, 12 jours avant sa retraite. Sa retraite était signée pour le 1er mars et le 16 avril, il est décédé d'une hémorragie cérébrale. Mm. Et on a heureusement donné ses organes qu'on a pu donner. Mais là, j'ai revécu mon divorce, ma culpabilité. Et je me suis dit, en fait, celui que j'ai aimé le plus dans ma vie, c'est lui. C'est facile à dire, c'est sûr, c'est super facile à dire. Il est décédé aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai vécu. Et là, j'ai revécu le bas-fond. Là, l'enfer commence. Je bois de plus en plus. Je m'en veux. Je m'haïs. J'ai dit juste au bon Dieu, je te remercie tellement. J'ai pu y demander pardon avant qu'il meure. Parce que un an ou deux avant, pour notre fils, on a dû aller à la cour pour une cause à mon fils personnel. Et cette fois-là, j'ai demandé pardon à Michel. J'ai dit, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, même si je n'y avais jamais verbalisé tout ce que j'ai fait. Je sais qu'il sait. Alors, quand il est décédé, j'ai tout revécu ça. Le mal que j'ai fait à mon fils, à lui qui m'aimait tellement, mais tellement. Et j'étais à cette époque-là avec un conjoint qui était alcoolique. Et il comprenait pas ça, que je vivais un deuil épouvantable. Mais je pouvais pas le montrer que je vivais un deuil épouvantable. Écoute, ça faisait, je sais pas, moins 20 ans que j'étais plus avec Michel. Mais on avait une relation exceptionnelle, toutes les deux. On était restés très amis. Puis quand je quittais pour des vacances, il gardait mon chien, etc., etc. Quand il y avait quelque chose pour mon fils Simon, on s'assoyait toujours à trois. Alors, on a toujours été en très bon contact. Mais là, je revis le divorce, ma culpabilité, je me répète. Et je bois de plus en plus. Je bois de plus en plus. L'année d'après, ben, c'est mon frère qui est décédé. Presque un an jour pour jour, mon frère, le troisième, qui était héroïnomane. Et lui, c'est une histoire qui me concerne parce que j'ai dû le faire, l'expulser de chez mes parents parce que ma mère me l'a demandé, elle était hospitalisée, puis elle m'a demandé, pourrais-tu t'en occuper puis l'expulser, je suis pas capable de revenir à la maison s'il est encore là, il avait 50 ans, il reste encore chez mes parents. Et j'ai dû le faire expulser pour se faire, bon, il a fallu passer par la police, etc., etc. Je vous épargne le reste. Mon frère s'est retrouvé dans la rue. Et à 54 ans, lui aussi, est mort de son corps relâché, si vous voulez. Mais moi et ma sœur, les travailleurs sociaux nous ont rejoints. Moi et ma sœur, on s'est promis qu'il ne meurrait pas seul. Alors, on a passé des nuits. Chacun de notre tour, moi, je passais les nuits assises dans sa chambre pour ne pas qu'il meure seul. Ma sœur venait me relayer le jour. C'est ce que j'ai vécu à peine un an.
Et Caroline, hein, c'est deux énormes deuils à vivre en si peu de temps. En plus, avec l'hypersensibilité d'un alcoolique, comment qu'on vit les émotions fortement, ça a dû être toute qu'une affaire à vivre. Je suis exactement sans mots. Alors là-dessus, je vais vous laisser mes amis à l'autre bout qui nous écoutent. Je vous laisse là-dessus pour aller à la pause. Je vais rester dans ma réflexion. Je vais rester là où ce que je suis en ce moment. Ouais. Merci. À tantôt.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, nous avons la ligne d'aide téléphonique de ta région, là, au travers le Québec, et puis appel, il y a quelqu'un pour t'aider, t'écouter. Souvent, c'est la porte d'entrée aussi pour aller faire un meeting ou connaître qu'est-ce qui se passe, même juste parler, là, ça peut être juste ça aussi. Il y a quelqu'un pour t'écouter. Alors aussi, les réunions, on parle de meeting ici, là, sont toutes là. On a le site qui permet de voir aussi qu'il y a des réunions sur Zoom, il y a des réunions en personne, il y a des réunions par téléphone. Il y a plusieurs façons donc de contacter Alcoolique Anonyme ou bien de juste assister à un meeting. Nous retrouvons Louise. Je vais lui céder la parole assez rapidement puisque c'est notre dernier segment. Je l'aurais écouté toute la journée. C'est ça, puis c'est vrai en plus. Elle nous a conté, ouais, quelque chose quand même comme trauma. Sûrement que c'est traumatisant là de perdre deux personnes importantes dans sa vie en si peu de temps, aussi jeune, 54 ans, là, les deux, son frère et son ex-mari. Et puis, deux personnes significatives quand même. Ça l'a bouleversé beaucoup de choses, je crois. Et puis, bon, on va aller voir aussi son rétablissement, son entrée avec nous, Alcooliques Anonymes, et puis finir ça en beauté avec Louise. Alors, vas-y, ma chère.
Bonjour. Donc, après avoir vécu ces tsunamis, bien sûr, je me suis enfoncée de plus en plus. J'ai eu une séparation, j'ai vécu seule, j'ai tout perdu, j'ai fait une proposition de consommateur, bref. Le 30 décembre 2017, j'en peux plus, donc j'ai des médicaments à la maison, toutes sortes de médicaments, et je prends une poignée et je vais me coucher. Bien sûr, après avoir bu une bonne bouteille de vin, peut-être deux même, je peux pas vous dire, je sais plus. Mais à mon grand malheur, et merci mon Dieu, je me suis réveillée le lendemain matin. Mais là, la peur de moi-même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais c'est la plus grande peur que j'ai eue. Quand tu dis que tu as peur de toi-même, je peux pas me sauver de moi-même, là. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, fais quelque chose, je suis plus capable. Je suis plus capable. J'avais un fond de bouteille, bien sûr, je l'ai bu. Ça a été le 31 janvier, le lendemain de ma tentative, la dernière fois où j'ai pris un verre. Le 31 décembre, pardon, 2017, le 1er janvier 2018, j'ai fait un pacte avec ce que je croyais pas être le mon Dieu, là. Parce que moi, le mon Dieu, hey, j'étais même plus forte que lui, voyons, non, le mon Dieu, j'ai qui ça, lui? J'ai-tu d'abord vraiment? Maintenant, je peux vous dire merci, mon Dieu, oui, oui. Qui que ce soit pour vous, quoi que ce soit pour vous, quelque chose de plus fort, quelque chose en quoi vous croyez, peu importe ce que c'est, ça nous donne vraiment des ailes, ça nous donne vraiment de l'espoir, ça nous donne l'envie de continuer, la force de continuer. Alors, je vis ma sobriété seule. Bien sûr, je ne le dis à personne, hein. Moi, je suis faite forte, je suis capable, seule. Ça a duré presque 11 mois tout seul. Ma sœur, qui est aussi membre, me harcèle. Je trouve ça drôle maintenant. Elle me harcèle, je ne sais pas combien de fois qu'elle m'a appelée. Louise, viens donc avec nous autres, viens voir un meeting. T'es-tu malade? Penses-tu m'aller voir Léa? Pas en plus avec votre bon Dieu. Puis là, vous allez me donner une Bible, puis je vais aller ça dans mes mains. Je veux rien savoir du bon Dieu. Viens donc, Louise. Mais en fait, j'avais peur de ce que... Je sais pas. Je suis allée. Bon, en novembre, je suis allée, après 11 mois d'abstinence tout seul. Je suis allée et là, je me suis effondrée. J'ai rencontré des gens qui sont comme moi. On est toutes des pas pareils, on dit souvent ça, hein. Mais je me suis sentie chez nous. Petite tabarnouche, je suis pas toute seule. Il y en avait de tous les âges, de tous les couleurs, de tous les grosseurs. Colin, je suis rendue chez nous. Vous dire le bien que ça m'a fait, pas la première journée, c'est bien sûr, j'étais bien trop sur le gros nerf. Mon Dieu que ça m'a fait du bien. J'ai une tonne de briques s'est enlevée de mes épaules et bien sûr, j'ai continué à assister aux rencontres. Plus tard, je me suis impliquée. J'ai fait le café des mois, 2-3 mois, j'ai fait du café. Je me suis impliquée dans un autre groupe. J'étais dans la conscience de groupe. J'ai été secrétaire. J'ai fait l'étude du gros livre sur le web. J'ai enfin trouvé mon encre, je dirais. Vraiment. On peut discuter. Des fois, on finit même pas nos phrases puis on se comprend. On comprend notre folie. On comprend nos forces. Pas juste nos faiblesses, parce que nos faiblesses parfois sont des forces et nos forces sont parfois des faiblesses. Mais moi, je vais parler pour moi, tout est dans l'excès. J'aime. Et j'haïs. Mais ça, j'aime pas ça. C'est un mot que je déteste. Maintenant, j'apprends l'acceptation. J'apprends de prendre un respire avant de témoigner, de juger, de réagir. Parce que j'ai la réaction facile, j'ai la réaction du tac au tac. Mais là, je réussis pas tout le temps, c'est bien certain. Mais j'aimerais ça être parfaite. Mais c'est pas facile. Je prends un recul. Juste le fait de prendre un recul de quelques secondes avant de dire quelque chose, ou de faire combien de fois dans une journée je peux faire la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi l'ex... Je sais pas combien de fois par jour je le fais. Mais le temps que je fais ça, je réagis pas comme... Ma réaction est modifiée. Merci. Merci. Merci et le mouvement. Sans vous, je serais plus là, c'est certain. Et j'ai encore, on dit souvent, il faut se libérer de nos peurs. Mais moi, c'est drôle, mais j'ai pas le goût de me libérer de cette peur-là de retomber. Parce que quand je suis retombée après un an et demi d'abstinence, ça a duré 16 ans, et ce fut foudroyant. Puis là, si je retombe, il n'y aura pas de revenez-y. J'ai peur. J'ai encore peur. Parfois, j'ai encore soif. Mais ça dure quelques secondes. Je fais mes lectures. J'aime beaucoup faire mes lectures le matin. Je parle à ma sœur, qui est pas juste ma sœur, qui est ma marraine aussi. Puis je remercie la vie. Je remercie le bon Dieu, peu importe comment vous l'appelez, qui que ce soit. Merci pour cette journée. Merci, j'ai pas encore bu. Merci. Merci pour ces beaux oiseaux dehors. Quand je vois un oiseau, je dis « Salut mon beau pit-pit! Salut mon petit pipi! » Les arbres, la couleur. Il y a des nuages, ils sont gris, mais regarde le rose qu'il y a, le mauve. Mon Dieu que c'est beau. C'est beau. Merci. Merci. Je remercierai jamais assez. Et je fais des intensifs régulièrement, 4 à 5 par année. Des intensifs, c'est des rencontres, ça le dit, intensifs, qui durent une fin de semaine. Et ça me remet sur pied. On fait des ateliers. Bien sûr, pendant le COVID, j'ai pas fait de réunion et j'aimais pas vraiment le Zoom, mais là, je m'y remets. J'ai fait l'étude du GoLive par Zoom. Et là, je recommence mes présences dans des meetings. Ça me manquait. Le contact des gens, j'en ai besoin. J'ai besoin de voir des gens comme moi. Voilà. Louise, alcoolée.
Oh, Louise. Ouais, en tout cas, c'est... je sais pas si tu peux nous dire... aussi maintenant de quelle manière tu vis pour être comme tu sais d'être dans le programme présentement. Tu dis que tu as recommencé à faire du meeting en présentiel, tu as fait le gros livre, puis là tu as 4 ans d'abstinence.
Ouais.
Mettons en quelques phrases là, mais tu sais quand même là présentement, comment tu vis ça, toi, le programme, vu que tu as fait les étapes, tout ça? Tantôt, tu m'as confié, tu disais, moi, au début, j'ai pensé faire les étapes, check, là, je les ai toutes lues, je les ai toutes répondues, puis ça t'a fini là. Puis là, ben comment tu les vis maintenant? C'est comment que ça a changé pour toi?
C'est ça, au début, quand on m'a dit, Louise, il y a des étapes dans le mouvement. Ah oui, combien il y en a? Il y en a 12. Ah, ouais, OK, je peux savoir les feuilles, je vais y répondre aux 12. Ils ont dit, ben non, Louis, ça marche pas de même. Comment ça marche pas de même? Dis-moi, là, donne-moi-les, je vais te répondre. Je vais répondre aux 12, puis c'est ticket up, merci, bonsoir. Non. C'est toute ta vie qu'il va falloir que tu travailles. C'est quoi ça, des étapes? Ben, des étapes, c'est de travailler sur toi-même. C'est, ah, ouais. Et puis là, comme la première étape, entre autres, tu sais, qui dit que t'en es un petit peu. En tout cas, qu'on est alcoolique et tout ça, je sais que je suis alcoolique, mais j'avais jamais...
Tiens, je vais te la lire, la première étape. C'est « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. »
Exact. Je l'ai-tu perdu, la maîtrise de ma vie, maison? Mais j'avais jamais, avant ça, compris que j'étais impuissante devant l'alcool. J'ai toujours dit oui, je suis une alcoolique. C'est vrai que je suis une alcoolique, mais plus que ça, je suis impuissante devant l'alcool. Je peux pas. Elle est plus forte que moi. Puis ben beau me dire prends-en juste un, non, je suis pas capable.
Ça marche pas. Hein.
Non, mais c'est ça. Les étapes, c'est de vraiment travailler sur notre soi, notre soi-même. De pas moi, ce que j'en comprends aussi, la rancœur, ça fait juste me gurger par en dedans. Avant la COVID, je m'étais inscrite à un atelier pour faire ma 4e et ma 5e. Et
la pandémie est arrivée.
Mais j'ai ça à travailler, c'est bien sûr. Me pardonner d'abord, c'est ce que je trouve le plus difficile. Me pardonner d'abord.
Merci. Ça finit tellement bien par le pardon. Le pardon, en même temps, je trouve que c'est une preuve d'amour. C'est de l'amour pour soi, beaucoup d'amour pour soi. Alors, je te remercie, Louise, avec tout le fond de mon cœur. Sérieusement, c'était un beau moment qu'on a passé ensemble, franchement. Merci, beaucoup de gratitude et tout le chemin que tu as pu faire déjà, même T'sais, on dit la moitié du chemin, vous verrez déjà qu'est-ce qui va se passer. On est bien avec Alcoolique Anonyme. Alors, je tiens à remercier aussi tous les participants à l'émission, mon ami Yvon à côté de moi qui est à la console, nos auditeurs, l'équipe, et puis les collaborateurs et les radiodiffuseurs. Merci beaucoup. Je suis votre animatrice Isabelle et puis je vous souhaite une très, très belle semaine. À bientôt.